French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Et on parle toujours de la négativité sur les réseaux sociaux, des gens qui vous harcèlent, qui vous mettent des commentaires négatifs. Et moi, j'ai beaucoup de chance pour l'instant sur Très Américaine, parce que j'ai rencontré que des belles personnes, j'ai que des messages de soutien, des partages, vraiment des messages très, très gentils de personnes qu'au final, on me disait quand on a commencé notre interview, on se communiquait plus d'une fois sur Instagram et au final on se connaît pas et ça n'empêche pas les gens de se soutenir et d'être vraiment très très sympa avec les uns et les autres et je trouve ça beau.
Pendant le break des congés de fin d'année, French Expat vous invite à découvrir des créatrices de contenu en ligne. Après la redécouverte de l'histoire d'Océane Sorel, la créatrice du compte The French Virologist, cette semaine je vous propose une autre histoire née de la pandémie, elle aussi, avec le témoignage de Nolwenn, la créatrice de Très American. Arrivée en Floride pour un stage il y a une dizaine d'années, Nolwenn est très vite immergée entièrement dans la culture américaine. Elle tombe amoureuse, elle se marie, mais si ce mariage ne dure pas, son amour pour le pays, lui, il est intact. Près de 10 ans plus tard, Nolwenn travaille pour le gouvernement local et comme nous tous, elle se retrouve enfermée en mal de France pendant le début de la pandémie. C'est alors qu'elle décide de se lancer. Elle va expliquer l'Amérique aux francophones sur Instagram. Credit score, assurance santé, le Sénat, le football américain, tout y passe. Elle décortique avec méticulosité tout ceci, mais aussi avec pas mal d'humour, ce pays très américain. Elle nous raconte aujourd'hui comment elle en est venue à le faire et ce qu'elle envisage pour l'avenir. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
Hi, what's your name?
Oh, no, pas encore.
Hi, I'm Nolwenn.
Oh, like Norwin?
No. Nolwenn. N-O-L-W-E-N-N. Is it Norwegian? Like, are you from Norway?
Ah, oui, d'accord. Nolwenn, Norway, ça va loin.
No, it's Breton and I'm French.
Oh, so it's more like Noel then.
No, that's Christmas. Well, that's a beautiful name. I love it. Thank you.
D'accord, t'as rien compris, mais tu trouves ça beautiful, okay.
Moi, c'est Nolwenn, j'ai 32 ans. À la base, je suis rémoise, mais j'ai beaucoup, beaucoup bougé dans ma vie puisque mon papa déménageait très régulièrement quand il avait des nouvelles opportunités pour le travail. Donc je suis née à Reims, mais on a vécu à Vichy, dans les Vosges, de retour à Reims. J'ai étudié à Bordeaux. Maintenant, mes parents sont dans le sud de la France. J'ai étudié à Madrid et donc maintenant, je suis à Miami.
Donc effectivement, t'as pas mal bougé, mais il y a quand même eu un gros saut à un moment.
Oui, oui. De traverser l'Atlantique, oui, c'était un petit peu plus loin que le reste.
Une enfance passée en France, une vie de jeune adulte entre la France et l'Espagne. Et finalement, il y a 12 ans, Nolwenn s'installe pour de bon aux États-Unis. Sauf qu'à l'époque, elle ne le savait pas. Comment est-ce que cette enfance l'a préparée, justement, à cette nouvelle étape?
De vivre aux États-Unis par rapport à certaines personnes maintenant avec qui je discute sur les réseaux sociaux, que je vois que c'est leur genre le but, le rêve de leur vie. Moi, ça n'a pas vraiment été le cas, ça m'est un peu tombé dessus. Mais cela dit, je dirais quand même que mon expérience et le fait que, oui, j'ai déménagé autant de fois, ça m'a préparé dans le fait que, j'ai jamais été vraiment attachée à une maison, à une ville en particulier. Donc moi, bouger d'un endroit à l'autre, je m'habitue très très vite, je me sens très vite chez moi. Donc par rapport à ça, je pense que ça a facilité mon expérience, même si oui, les États-Unis, c'est complètement différent, une différente langue, culture, tout ça.
Bon, je vous propose qu'on rentre quand même dans le vif du sujet. Comment est-ce que Nolwenn s'est retrouvée à vivre à Miami il y a pas moins de 12 ans?
Moi, en fait, quand j'étais à Bordeaux, j'étais en école de commerce et j'étais dans un programme international. Donc, on devait faire 12 mois à l'étranger, que ce soit des études ou des stages. Donc, c'est pour ça que je suis allée à Madrid un semestre pour étudier. Et en fait, j'ai une tante et un oncle. Ma tante, c'est la sœur de ma maman. Qui vivent à Miami depuis, 2010. Et, non, pardon, 2000. Moi, j'y suis allée en 2010. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Et donc, quand j'ai cherché un stage, je leur ai demandé s'ils avaient des contacts. Et mon oncle travaillait dans le transport maritime. Donc, il connaissait très bien le directeur du port de Miami. Et ça s'est fait assez facilement, parce que les Américains, c'est un peu... c'est un stage gratuit. Oui, OK, très bien. Tu peux venir quand tu veux. Et j'ai fait un stage de 6 mois, comme ça, au port de Miami. Et en fait, via le cercle d'amis de mon cousin, donc le fils de ma tante et mon oncle qui vivent ici, à Miami, je suis tombée amoureuse d'un de ses amis. Bon, amour de jeunesse. Une fois que j'ai dû rentrer en France, on a essayé d'être une relation un petit peu à distance. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, si on veut vraiment tenter le coup, la seule façon de vivre au bout d'un moment ensemble, c'est de se marier si on veut travailler aussi, vivre ensemble sans avoir être restreint aux 3 mois de voyage ou au visa, tout ça. Donc, on a décidé de se marier. Lui, il était encore étudiant, donc moi, je suis venue à Miami. Et en plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai obtenu mon permis de travail, j'ai contacté le port pour savoir s'ils cherchaient quelqu'un. Et une des personnes avec laquelle j'avais travaillé venait d'avoir une promotion et cherchait une assistante. Et donc, il m'a offert à la base un job à mi-temps. Mais ça a été mon premier pied dans l'entreprise, quoi. Et à la suite de laquelle j'ai une promotion et un boulot à plein temps. Donc, ça a bien fonctionné pour moi à ce niveau-là. Après, par contre, le mariage n'a pas fonctionné. On a divorcé assez rapidement. Et j'ai eu de la chance parce que quand on se marie aux États-Unis, je ne sais pas si tu as eu toi ta carte verte par le mariage, mais donc quand on se marie aux États-Unis, on a la carte verte pendant 2 ans, à la suite de laquelle on
la
doit
conditionnelle.
Prouver qu'on est toujours... Et j'ai quand même pu... j'ai pas attendu les 2 ans, mais j'ai quand même réussi à renouveler ma green card et j'ai pu rester travailler ici.
Donc, si je récapitule, Nolwenn arrive en 2010, elle rencontre celui qu'elle pense être l'homme de sa vie, elle doit rentrer en France à la fin de son stage, mais ils décident de se marier pour pouvoir donner une véritable chance à leur histoire d'amour. En parallèle, elle trouve ses premiers jobs, elle s'éclate, la vie est belle. Sauf que le mariage ne marche pas. La revoilà donc en 2012, avec une vie pro qui l'intéresse vraiment et une vie personnelle à complètement réinventer.
Du coup, j'ai continué à travailler, j'étais bien dans le travail. Rentrée en France immédiatement, déjà, il y a eu tous les mois de devoir renouveler ma green card. À la base, ma première demande a été rejetée. Donc, j'ai dû prendre un avocat pour prouver. En fait, j'ai dû leur envoyer tous mes albums photos, tous les messages. On a vraiment prouvé, faire des lettres de mes parents. Comme je travaillais pour le gouvernement, j'ai fait des lettres des élus. Qui me connaissaient pour prouver que j'étais dans une vraie relation. Des mois se sont passés comme ça, le divorce aussi, ça prend quelques mois. Continuer le travail, j'étais dans une bonne situation au travail, que ma carrière commençait à être lancée.
Et donc, retourner en France, bah oui et non, mais pour faire quoi ? C'est un petit peu ça. Donc, je suis restée. Depuis, j'ai re-rencontré quelqu'un. Bon, pas de mariage à l'horizon, mais on est bien ensemble quand même. Et donc, je suis, j'ai commencé ma carrière comme ça dans le gouvernement à Miami. Et comme ça me plaît, je suis restée.
12 ans aujourd'hui depuis que Nolwenn est arrivée aux États-Unis. Ça fait un petit moment maintenant. Comment est-ce qu'elle se projette dans ce pays ? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle souhaite en prendre la nationalité ?
Je suis toujours sous carte verte. Je peux faire ma demande. Ça fait des années que je peux faire ma demande. Et comme je ne savais pas trop à la base si je voulais rester, je ne l'ai pas faite. Ensuite, il y a eu la pandémie. Je ne l'ai pas faite parce que tout le monde se plaignait. Il y a des délais, il y a des machins. Et je sais qu'au fond de moi, comme ma première demande pour la green card, c'est pas bien passé. Des fois, j'ai un petit peu peur que ça me retombe dessus et je repousse tout le temps. Mais j'ai dit que là, 2023, c'est sûr, je fais ma demande. Je me projette, oui. Je ne me vois pas pour l'instant à moyen terme retourner en France. Je ne dis pas le contraire que si l'opportunité se présentait, que je n'y retournerai pas. Mais ce n'est pas mon projet là. Et puis, de toute façon, avoir la double nationalité, ce serait super pour plusieurs raisons, même si je voulais rester ou non. Donc autant le faire. Si on peut, autant le faire, avoir le choix.
Pendant la pandémie, que l'on a tous connue en 2020, Nolwenn, qui n'avait jusqu'alors jamais cherché à se rapprocher de la communauté française, décide de lancer le site internet 13american.com. Un site internet, mais aussi un compte Instagram, dans lequel elle décortique tous les trucs qu'on n'ose pas vraiment demander à propos des États-Unis dans des vidéos courtes, précises et pédagogiques, et même parfois plutôt rigolotes.
Je pense qu'il y a deux choses. Déjà une, me rendre compte que par rapport à des Français qui arrivent ici et qui ont vite besoin de se connecter à la communauté française, moi, je n'ai pas eu ce besoin-là du fait que je suis arrivée. Je me suis mariée. J'étais tout de suite dans le cercle d'amis, de famille, de mon copain. Donc,
t'étais accueillie, finalement.
Ouais, c'est ça. Du coup, je n'ai pas eu forcément ce besoin comme des Français qui arrivent, qui sont plus isolés. Et c'est facile de rencontrer des Français qui passent par là. Moi, j'ai été très, très vite dans la vie américaine à 100% dès le début. Et du fait de mon stage et même après le boulot, il n'y a personne qui parlait français à mon travail. Dans le gouvernement comme ça, on rencontre que des gens qui sont plus ou moins nés ici, même si Miami, il y a énormément d'immigrants aussi qui viennent d'Amérique latine, tout ça. Enfin, des Français, pas du tout. Et j'ai pas, comme je disais, j'ai pas eu ce besoin de rencontrer des Français. Mais il y a le fait que j'étais vraiment baignée dans la culture américaine, donc je pense que je comprenais certains aspects de la culture américaine mieux que certaines personnes qui sont très en famille ici et qui sont moins dedans. Plus le fait que je travaille pour le gouvernement, donc j'ai appris énormément sur le fonctionnement de la politique et le gouvernement américain. Et en plus, mon nouveau petit copain, il est passionné, mais passionné, c'est sa vie, la politique et l'histoire américaine. Il est cubain-américain et pour lui, d'après ses parents, étaient des immigrés, des réfugiés cubains. Donc, il a été baigné dans la politique. Des parents qui parlent beaucoup de ça et qui parlent énormément de ça, les Cubains à Miami. Donc, pour lui, être cubain et ne pas être intéressé en politique, c'est impossible.
D'accord.
Par rapport à ce que sa communauté a vécu. Ouais. Donc, lui, il est vraiment passionné là-dessus. Je ne dis pas les bibliothèques de livres qu'on a. Et du coup, j'ai appris énormément de lui aussi sur tout ça. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais sûrement des connaissances que d'autres personnes n'avaient pas. Et en plus, je pense que j'ai créé ce projet-là en plein milieu de la pandémie. Et comme beaucoup de monde, je pense que j'ai eu des coups bas à ne pas pouvoir rentrer en France, d'être un peu plus isolée. Et je pense que là, j'ai eu plus besoin de me connecter à la France. Et c'était un petit peu un moyen pour moi de parler des États-Unis, mais en même temps créer plus de contacts avec la communauté française, que ce soit avec des expatriés ou avec des Français ou des francophones, puisqu'il y a un peu des francophones de partout qui me suivent, je me rends compte. Et oui, et j'avoue que quand j'ai créé Très Américaine, je ne savais pas vraiment où ça allait. Tu vois, les vidéos comme je fais maintenant, ça date peut-être d'un an. Mais ça fait 2 ans maintenant que... De 3 ans peut-être maintenant que j'ai ouvert Très Américaine.
Bon, les loulous, j'y vais. Je pars 3 semaines. J'ai déjà mis le petit email automatique comme quoi j'avais un accès limité à tout parce que dans le sud, il n'y a pas de réseau, internet, rien. Bref, ne m'appelez pas. Les emails, j'y réponds quand je reviens. Dans 3 semaines. Ok, I'm going away for 3 days, but I have my laptop, I have my cell phone, I have Wi-Fi on the plane, in the hotel, the kids will be at the kids club, so you call me, you email me, I answer anytime, ok? Don't hesitate, call me. Alright, talk to you soon.
Au début, je ne savais pas trop où ça allait, donc quand j'ai commencé à suivre d'autres comptes d'expatriés, je me rends compte qu'il y a énormément d'Américains qui racontent un petit peu la vie de tous les jours aux États-Unis. Donc moi, je pense que ça, c'était pas mon but de toute façon dès le début. Et je me suis dit, il n'y a pas besoin de rajouter un compte là-dessus. Et donc j'ai commencé à me rendre compte, avec des discussions avec des Français, des expatriés, que je connaissais très bien, je pouvais très bien expliquer le fonctionnement du gouvernement et de la vie, par exemple, d'assurance santé, la sécurité sociale. Là, j'ai fait une vidéo sur les mesures, des choses comme ça que je connaissais très bien. Et donc, j'ai commencé à expliquer. Au début, j'essayais de me concentrer sur des sujets d'un petit peu d'actualité. Par exemple, il y a un moment, on entendait parler énormément du filibuster parce que Joe Biden n'arrivait pas à avoir aucun de ses projets de loi approuvés à cause du filibuster. Du coup, j'ai expliqué c'est quoi le filibuster. Mais je me suis rendu compte, oui, mais là, tu vas un petit peu trop loin. Déjà, explique c'est quoi le Sénat, la minorité au Sénat, tout ça. Donc, j'ai fait une vidéo sur le Congrès et c'est marrant, mais comme moi, c'est des trucs dont je parle tous les jours, pour moi, c'était tellement bateau d'expliquer c'est quoi le Congrès que je me suis dit, ça va pas plaire, ça va pas machin. Et je crois que toujours à ce jour, c'est la vidéo qui a eu le plus de vues et de partages. C'est quoi le Congrès américain?
Aux États-Unis, on entend souvent parler du Congrès, Sénat, Chambre des représentants. Mais c'est quoi tout ça? Alors je sais que certaines personnes ne vont pas me croire, mais dans nos démocraties, les pouvoirs sont divisés pour éviter qu'une seule personne ou entité ait un pouvoir absolu. Aux États-Unis, il y a 3 branches. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le Congrès, c'est là, dans le pouvoir législatif. C'est donc là qu'on propose et vote pour ou contre des nouvelles lois et qu'on approuve ou non le budget fédéral, entre autres. Sans un vote favorable au Congrès.
Donc maintenant, j'essaie de me concentrer là-dessus, un peu plus les bases, plus des sujets qui, je sais, intéressent un peu plus les expatriés, comme l'assurance santé,
Des questions, tu veux dire, qu'on peut se poser en arrivant, en fait, qui t'empêchent de fonctionner? C'est un peu ça l'angle ou...
Je pense des questions qu'on s'est tous posées ou des problèmes qu'on a tous eus quand on est arrivé aux États-Unis, enfin, je sais pas toi, mais moi au début, quand il fallait aller chez le médecin et qu'on me disait c'est quoi votre copay, pardon. Et donc des choses qu'on connaît pas, enfin qui sont vraiment différentes de la vie française et qu'on connaît pas forcément. Et donc d'essayer d'expliquer un petit peu tout ça, donner pas forcément des conseils, mais juste expliquer les choses telles qu'elles sont aux États-Unis.
C'est ça, il y a aucun parti pris dans tes vidéos au sens où ton but, c'est vraiment d'expliquer avant tout.
C'est ça. Déjà une, parce que je pense que des fois, donner son opinion, c'est un petit peu facile quand c'est une autre culture, un autre pays, une politique différente. Les États-Unis, on voit ça comme assez similaire de la France, mais il y a beaucoup, beaucoup de différences. Donc moi, mon but, c'est d'expliquer les choses telles qu'elles sont, que ce soit pourquoi les républicains font ça ou pourquoi les démocrates, parce que c'est la façon dont les choses sont et il faut bien s'en rendre compte. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur les armes. Oui, forcément, moi, ça me fend le cœur aussi quand il y a ces fusillades immondes. Mais mon but, c'est pas de dire il faut absolument arrêter le port des armes. Le port des armes, il est dans la culture américaine et j'essaie d'expliquer ça. Que ça plaise ou pas, le fait est que les armes sont là pour rester. des choses comme ça. Et de toute façon, moi, par rapport à mon travail, il faut que je fasse très, très attention à ce que je dis. Tu vois, je connais un haïtien qui parle français. Donc, enfin, ouais, il suffit d'une personne. Et tu vois, à Miami, bah, je travaille pour une maire démocrate. Mais des fois, il faut que j'ai des subventions au niveau d'État d'un républicain très conservateur. Et je n'ai pas envie de me mettre dans une position où on me demande, je ne peux plus travailler sur un projet, voire je me fais virer parce que j'ai dit telle ou telle chose sur les réseaux sociaux. Donc, je fais très attention à ça. Et de toute façon, ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas de donner mon opinion.
Et est-ce que, justement, par cette neutralité et l'aspect finalement très factuel de tes vidéos, de tes explications, est-ce que ce n'est pas aussi une manière... peut-être de fournir des clés pour casser finalement des clichés, tu vois, qu'on a sur les États-Unis. Tu parlais des armes à l'instant. Alors, les armes, ça reste un problème aux États-Unis, en tout cas selon moi. Mais il y a aussi beaucoup de clichés. Tu vois, moi, je vois mon mari, quand on est allé vivre en France entre 2008 et 2011, les gens lui disaient « Ah, bah, t'es américain, où est ton flingue ?» Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de clichés et pas toujours très bienveillants. Il y en a des rigolos, puis il y en a des bofs, ouais, bienveillants. Est-ce que, justement, par tes vidéos, tu vois, tu t'essayes un petit peu de déconstruire ça et d'offrir peut-être un autre angle de lecture de l'actualité, de choses, en fait, dont on a besoin pour comprendre la société américaine ?
Oui, non, carrément. Et puis, c'est aussi... Moi, des fois, je vois des autres expats, sans critiquer ni rien, parce qu'on a tous ces opinions, mais qui parlent des actualités américaines. Et je me dis, bon, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et ce n'est pas grave, mais je veux dire, c'est beaucoup ça sur les réseaux sociaux aussi. Hein, mais oui, moi, mon but, c'est d'expliquer les choses telles qu'elles sont, que ce soit que ça rentre dans le cliché américain ou non, justement, que ça explique qu'il n'y a pas que ça.
Tu veux donner quelques exemples de sujets qui t'ont marqué ? Je ne sais pas s'il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres à construire.
Bah justement, sur les armes, je voulais faire très, très attention à ce que je disais, parce que c'est des sujets assez sensibles. On sait qu'il y a des gens, surtout dans la communauté française, pour nous, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on n'est pas né avec ça. Donc j'ai fait très attention justement à rester très factuelle. J'ai fait énormément de recherches pour montrer, c'est pas mon avis à moi, c'est basé sur des chiffres, des études. Donc ça a été assez compliqué à faire. Alors par exemple, comme je disais, une vidéo pour le Congrès, moi c'est des sujets que je connais par cœur. Donc à part vérifier, attends, c'est combien, 435 représentants, vérifier un petit peu des trucs comme ça, ça a été assez facile à écrire. Il y a des choses, par exemple, je n'ai pas fait de vidéo sur l'avortement. Quand il s'est passé, on sait tout ce qui s'est passé avec Roe v. Wade, je pense. Mais j'ai fait très attention parce que je... D'un côté, bah, comme mon but, c'est d'expliquer pourquoi les choses sont de telle façon d'un côté et de l'autre, bah, j'allais aussi donner des raisons pour lesquelles la Cour suprême a choisi ça. Et j'avais très peur que ce soit interprété comme « t'es d'accord avec la Cour suprême, mais t'es contre l'avortement ».
Ça se transforme après en lynchage.
Ouais. Et j'ai dit « laisse tomber, j'ai pas envie de faire un buzz, c'est pas mon but, un buzz négatif ». Donc des sujets assez sensibles comme ça, je continue de faire attention. Après, c'est marrant parce que, comme je disais, il y a des sujets que je fais en me disant que ça ne va pas forcément plaire. Et c'est les vidéos qui finissent par plaire le plus, comme le Congrès ou les mesures, les unités de mesure aux, ouais, États-Unis. Ça a une des vidéos qui a été le plus partagée aussi.
Et c'est vrai.
Ouais, je ne m'attendais pas à ça, de parler des yards et des cops et, ouais, des machins, et que ce soit, et que ça plaise autant, mais... Parce que c'est un problème que je pense que tous les expats ont, voilà, de se retrouver avec les mesures. On a tous dû avoir fait face à ça. Et c'est, je pense que c'est tout ce qui est, comment on dit en français, that we can relate to.
On s'identifie, ouais, d'une certaine manière.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un sujet dont tu es particulièrement fière ?
Les vidéos que j'ai faites sur les assurances médicales. C'est là que j'ai le plus de retours de gens qui m'ont dit que ça les avait aidés à comprendre beaucoup de choses, que même avec des assurances, ils ne comprenaient toujours pas ça veut dire quoi le premium par rapport à ci ou ça.
Une petite question pour ceux qui sont déjà allés chez le médecin aux États-Unis. Vous aussi, vous n'y compreniez rien au début quand on vous parlait de copay, deductible ou network. Allez, parlons-en et essayons de comprendre les différents termes et coûts associés à une assurance médicale américaine. On va commencer par le plus facile avec le premium. C'est tout simplement le coût mensuel de votre assurance. Si vous achetez vous-même une assurance privée, de la même façon qu'on achète une mutuelle en France ou un compte Netflix pour une, deux ou quatre personnes, l'assurance sera plus ou moins chère selon la couverture et les bénéfices choisis. Et vous payez chaque mois le premium, soit le coût mensuel de l'assurance. Si votre assurance est fournie par votre employeur, vous pouvez être amené à payer une partie de ce premium qui vous sera déduit directement de votre salaire. Passons au network. Les assurances négocient des prix avec un réseau de médecins et d'hôpitaux qu'on appelle le network.
Donc ouais, je pense que c'est le genre de choses qui peuvent le plus aider, quoi, qui ont un plus grand impact, c'est ça dont je vais rester le plus fier.
Du coup, tu me parlais donc de comment tu choisis certains de ces sujets. C'est un peu avec l'actualité. Je me souviens aussi, par exemple, des règles du foot que tu avais sorti, enfin du football américain, que tu avais sorti au moment du Super Bowl, il me semble. Tu parlais du filibustier avec le Congrès, le Sénat. Est-ce que ce sont des questions, enfin des choses donc que toi tu connais bien, est-ce que c'est aussi des questions que tu t'es déjà posées? Enfin, en fait, comment est-ce que tu arrives à choisir ces sujets-là?
Alors, les sujets comme par exemple les assurances et tout, c'est des sujets qu'on me demande des fois. Pour l'instant, j'ai l'impression de me concentrer plus sur des choses que je connais déjà. Et bien sûr, je fais beaucoup de recherches parce que j'ai pas envie de raconter des bêtises. C'est loin d'être mon but. Je parlais de mon copain, donc il s'y connaît très bien en politique et en plus, lui, il est très républicain. Pas républicain de nos jours, par contre, hein, je tiens à préciser. Être très républicain aux États-Unis, je trouve que c'est très différent de n'importe quel parti politique en France. Hein, qu'on peut être de droite. En France, je trouve que c'est pas pareil. Et donc, lui, il a une perspective complètement différente des fois de la mienne. Mais donc, pour moi, c'est enrichissant d'avoir ces conversations-là. C'est pas... ouais. Lui, il parle pas un mot français. Donc forcément, moi, quand j'écris mes explications, c'est pas lui qui les écrit ou qui m'aide. Mais par contre, je vais faire du fact-checking avec lui. Je vais lui demander, attends, ça s'est bien passé comme ça? Et toi, t'en penses quoi de ça? Et tu trouves que c'est un problème? Je lui demande un petit peu. Et puis des fois, oui, il y a des sujets qui, moi... Par exemple, le filibuster, c'est un truc que je comprenais, mais sans le comprendre en détail, au point de pouvoir l'expliquer en vidéo. Ouais.
Ouais.
Et du coup, pour ça, c'est un truc que j'aime bien aussi par rapport à mon compte, c'est que ça me force aussi, moi, un petit peu à approfondir certains sujets.
Il en pense quoi, ton copain, du coup, que tu expliques son pays, enfin, en tout cas, un de ses pays, à des francophones?
Il adore, ce qui me fait rire, parce qu'il ne comprend pas du tout ce que je dis, mais par contre, il regarde mes vidéos de A à Z. Ça me fait, je trouve ça mignon, ça me fait rire, mais il regarde ma vidéo et puis il est là, you're so cute. il est vachement encourageant. J'ai même des amis je parle vraiment qu'en français, j'ai pas vraiment partagé mon compte avec mes amis. J'ai un compte personnel d'ailleurs que je m'en occupe plus du tout, mais j'avais un compte personnel, donc mes amis américains, je leur ai pas dit allez abonnez-vous à Très Américaine, parce que ils vont rien comprendre de toute façon. Mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont découvert mon compte et ils ont tous des retours super positifs. Alors je me dis, ils comprennent rien, mais ils sont vachement encourageants.
C'est très américain, ça, pour le coup.
C'est très américain d'être... t'as pas mal de vues, t'as pas mal... Ouais, et puis ils sont super contents, et ouais, c'est marrant.
Alors, je ne vous apprends strictement rien si je vous dis qu'on vit dans une ère de la désinformation et que c'est un des enjeux majeurs de notre siècle. Mais alors du coup, partager du contenu éducatif en ligne, c'est bien, mais même avec les meilleures intentions du monde, on peut répandre des erreurs. On peut contribuer à cette désinformation finalement. Ça arrive tous les jours. Comment est-ce que Nolwenn gère-t-elle cette responsabilité ?
Ça, c'est marrant parce que maintenant, je commence à mettre de plus en plus mes sources. Soit je le mets, si je mets des chiffres, en général, je vais mettre la source dans la vidéo en bas. Souvent, maintenant aussi, je mets en description, en dessous de la vidéo, je mets mes sources, des choses comme ça. Mais c'est marrant parce qu'au début, je ne le faisais pas. J'avais des bons retours et je me disais, les gens, ils se demandent jamais si je raconte des conneries ou pas. C'est vraiment une question que je me suis posée. Je me suis comme quoi tu pourrais raconter n'importe quoi.
À l'heure des fake news, c'est dangereux.
Confiance et... non, mais parce qu'il y a tellement de comptes maintenant qui racontent n'importe quoi. Et je me suis dit, les gens, ils avalent tout ce que je dis alors qu'ils ne savent pas trop au final si je m'y connais ou pas. Mais donc, de plus en plus, et oui, si quelqu'un me demande mes sources, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je garde tout. Pour moi, c'est plus pas même que ce soit questionnable, mais comme tu disais, mon but, c'est pas de raconter des bêtises aux gens, c'est d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Et des fois, moi, j'ai une perception des choses aussi, et j'aime bien vérifier que ce soit comme ça. Et j'expliquais, par exemple, dans ma vidéo sur le fédéralisme, la différence entre les États. Donc, moi, mon expérience à Miami, elle n'est pas forcément la même que quelqu'un aurait dans un autre État, dans une autre ville. Donc, j'aime bien vérifier les informations en général aussi que je fournis.
Tu as fait combien de sujets jusqu'à maintenant? Combien de vidéos?
Je ne sais pas trop. Peut-être une vingtaine. Non, j'en ai pas tellement. J'aimerais bien prendre le temps d'en faire plus, mais c'est du boulot.
C'est ce que j'allais dire, parce que tu bosses à temps plein. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui, après 12 ans aux États-Unis, je vais te poser quelques petites questions rapides. Qu'est-ce qui te surprend encore le plus aux États-Unis, dans ce pays?
Là, par exemple, c'était, tu vois, sur le sujet des armes. J'ai l'impression, au début, j'étais plus communauté un petit peu latine à Miami, qui est différente encore de la communauté vraiment américaine. Et là, je travaille de plus en plus avec des personnes. Je travaille avec beaucoup des policiers et des gens qui ont vraiment plus la culture américaine. Et justement, on parlait beaucoup des armes après les fusillades, tout ça. Et je me suis rendu compte, par exemple, que mon patron a une dizaine d'armes. Là, je parlais à quelqu'un qui me dit « Ah, je vais en voyage. Tiens, je crois qu'il est au Colorado. » Et puis, il me dit « Je vais faire du mountain hunting. » Puis, je lui dis « Ok. » Et il me montre des photos, mais gore. De tout ce qu'il chasse. Et je suis pas végétarienne ni rien, mais bon, quand même, il aurait pu me prévenir de ce qu'il allait me montrer. Et qu'il me montrait un gamin de 5 ans avec une arme dans les mains. Et pour eux, c'est normal. Et ça continue à me choquer quand même. Quand la dernière fois, je suis allée chez le médecin. Et de moi, j'ai une très bonne assurance. Donc, mes visites annuelles, en général, je paye rien. Et que la nana à côté de moi lui dit, j'ai bien entendu que c'était une visite annuelle aussi, mais elle ne doit pas avoir d'assurance et qu'elle a dû payer 110 $ pour sa visite. Et ça me choque encore de me dire, on est dans le même pays et on paye différemment pour le même service, surtout sur la santé, quoi, surtout sur la santé. Je pense que c'est ça qui me choque.
Justement, ma deuxième question, c'était, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Est-ce qu'il y a encore des trucs qui t'énervent? Tu vois, on a beau aimer là où on vit. Est-ce que ce serait ça, justement, les inégalités sur la santé, ou t'aurais autre chose?
Ouais, peut-être. Et puis certains stéréotypes aussi sur les Français, des fois, que j'en ai.
Ah ouais, genre quoi?
Par exemple, j'ai toujours la coupe au carré. On me dit toujours, you're so French, you look so French. Ben oui, parce que tous les Français ont les cheveux coupés au carré, bien sûr. Et tout ce que je dis, de toute façon, c'est so French. Ma personnalité, c'est forcément parce que je suis so French. Et ça, je pense que c'est un truc, au bout d'un moment, j'en ai ras le bol d'entendre.
Il va falloir que tu commences le compte très français, très French, pour déconstruire un petit peu les clichés. Ce serait marrant.
Des fois, ça m'énerve.
Est-ce que y a un truc aux États-Unis, tu vois, malgré justement ce que tu fais sur ce compte, que tu penses que tu comprendras jamais, tu vois, que tu arriveras jamais vraiment à t'approprier?
Peut-être, j'ai fait une vidéo pour en rire la dernière fois, les glaçons dans le dans les verres d'eau. Je comprends jamais que tu ne peux pas avoir juste un ou deux glaçons dans ton verre d'eau.
Explique, ouais, pour les gens qui ne sont jamais allés aux États-Unis au restaurant, parce que c'est particulier, c'est un concept.
Ouais, non, alors aux États-Unis, je ne sais pas, la passion pour les glaçons, ils te remplissent vraiment ton verre de glaçons. Tu as plus de glaçons que de boissons dans ton verre. Et moi, en général, c'est tellement glacé que je n'arrive pas à la boire tant que la moitié des glaçons sont fondus. Et en plus, quand
puis
tu
te resserves avant que le truc soit fini tout le temps, ouais, tu repasses tout le temps à table, tu le resserves.
Que ce soit du Coca-Cola ou quoi, tu pourras en boire un litre sans t'en rendre compte tellement ils te resservent ça. Et si tu leur demandes pas de glaçons, des fois, je trouve qu'ils te font une tête genre « Ah oui, là, avec son accent, là, forcément, l'européenne, il n'y a pas de glaçons. »
La snob. Ouais. Qu'est-ce que tu adores à propos des États-Unis ? Tu vois, qu'est-ce qui te rend si enthousiaste à propos de ce pays ?
Je pense qu'à Miami, c'est vraiment cette idée du melting pot. Tu vois, à Miami, dans les équipes où je travaille, je crois qu'il n'y a que 2 personnes à chaque fois dans les réunions qui n'ont pas d'accent. Et ça, c'est un truc que je pense que tout expatrié, quand on arrive dans un pays, on est un petit peu complexé par son accent, par ses difficultés avec la langue. Et à Miami, tu n'y penses même plus tellement il y a de personnes avec d'accent, des cultures différentes. Et ça, c'est très, très enrichissant. Par contre, j'avoue que ce n'est pas, sûrement pas l'expérience que tout le monde... dans des villes comme New York, Los Angeles et tout aussi, mais dans le fin fond des États-Unis, je pense que ce n'est pas la même chose. Mais moi, à Miami, en tout cas, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce mix de cultures.
Est-ce qu'il y a un truc que tu ne referais pas ?
J'allais dire me marier.
En même temps, ça t'a fait venir ici.
Ouais. Non, j'avoue. Mais un truc que je ne referais pas, ouais, sûrement plein de choses, mais je ne sais pas.
Et est-ce qu'il y a un truc que tu referais absolument si tu devais réécrire ton histoire ?
Sûrement de créer très américaine, parce que ça m'a permis de faire plein de belles rencontres avec des Français, alors que, comme je disais, moi, je n'avais pas ce besoin-là à la base, et en fait, je me suis... Tu veux, si j'avais un conseil pour des expatriés français, c'est de ne pas essayer de se détacher au même point que moi je l'ai fait, parce qu'on a besoin de ce rapprochement avec son pays d'origine, je pense que c'est important. On parle toujours de la négativité sur les réseaux sociaux, des gens qui vous harcèlent, qui vous mettent des commentaires négatifs. Et moi, j'ai beaucoup de chance pour l'instant sur Très Américaine, parce que j'ai rencontré que des belles personnes, j'ai que des messages de soutien, des partages, vraiment des messages très, très gentils de personnes qu'au final, on me disait quand on a commencé notre interview, on a communiqué plus d'une fois sur Instagram, et au final on se connaît pas, et ça n'empêche pas les gens de se soutenir et d'être vraiment très très sympa avec les uns et les autres, et je trouve ça beau.
Est-ce que il y a quelque chose que t'aimerais tenter, un truc, je sais pas si c'est dans un futur proche, un futur lointain, en rapport avec les États-Unis,
que j'aimerais bien tenter? J'aimerais bien faire plus de road trip, mais moi, j'ai pas beaucoup de vacances par rapport aux Français, que je vois qu'ils sont tout le temps en vacances. Je sais pas comment ils font. Parce que pour faire un road trip, il faut quand même beaucoup de temps. Et moi, souvent, mes vacances, elles sont utilisées pour retourner en France ou quoi. Et j'aimerais, mais quand je vois les copains, copines expats sur les réseaux sociaux qui font des road trips magnifiques, j'adorerais prendre un mois et faire ça aussi.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Nolwenn pour ce chouette moment passé ensemble. J'espère que vous aussi, vous irez jeter un coup d'œil à son compte et vous apprendrez peut-être de nouvelles choses sur ce chouette pays que sont les États-Unis. Je vous remercie aussi, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la chanson. Je compte sur vous pour en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux. Ça compte beaucoup pour nous. La semaine prochaine, on reprend la route de nos épisodes un peu plus classiques. Et tradition oblige, je vous propose de fermer les yeux et d'essayer de deviner où nous nous rendrons mardi prochain. Petit spoiler, on va prendre l'air.
On avait un Waipiti qui était juste là. Et en fait, on a toujours des gens qui veulent prendre le selfie, la photo à moins de 2-3 mètres. Le Waipiti, en lui-même, il avait décidé de dormir là. Où nous, on est maintenant pour faire l'interview. J'étais pendant 2-3 heures bloqué pour la sécurité de l'animal et aussi pour la sécurité des gens. Ouais. Parce que, en fait, les gens, ils sous-estiment tout simplement les animaux.
Ça peut charger un wapiti, non ?
Oui, oui, oui.
Ils sont énormes.
Ils ont 150 kilos, 200 kilos à peu près. Ils sont à peu près la même grandeur qu'un mousse. Par exemple, la veille, on avait une femme qui s'est faisait écraser par une hutte, in English.
Une mère de famille, je sais.
Oui, voilà.
Je sais pas le mot.
Écraser. Oui, elle s'est fait écraser à Estes Park, dans le village.
Oh la vache.
Ouais, ça, c'est normal ici. Il faut vivre avec. On vit dans le territoire des animaux.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, un très chouette week-end, et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!